Étude sur le chapitre 6 de la Genèse. Nous voici arrivés à l'une des parties les plus remarquables de la Genèse. Enoch a disparu de la scène, sa vie d'étranger et de voyageur sur la terre s'éclose par sa translation au ciel. Il a été enlevé avant que le mal fût arrivé à son comble et que le jugement de Dieu fût tombé sur les habitants de la terre. Les deux premiers versets du chapitre 6 nous révèlent le peu d'influence qu'avait exercé sur le monde la vie et l'enlèvement d'Enoch. Et il arriva quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Le mélange de ce qui est de Dieu avec ce qui est de l'homme est une forme spéciale du mal et un puissant moyen entre les mains de l'ennemi pour gâter le témoignage de Christ sur la terre. Ce mélange revêt fréquemment de belles apparences. On le prendrait volontiers pour une expression plus grande de ce qui est de Dieu, pour une opération plus puissante et plus complète de l'esprit, pour quelque chose de réjouissant plutôt que pour un mal. Mais nous porterons un jugement bien différent si nous nous plaçons dans la lumière de la présence de Dieu. Car devant Dieu, nous ne pourrons pas nous imaginer qu'il y ait profit pour le peuple de Dieu à se mêler avec les enfants de ce monde ou à corrompre la vérité de Dieu par un alliage humain. Tel n'est pas le moyen dont Dieu se sert pour répandre la vérité ou pour favoriser les intérêts de ceux qui sont appelés à être sur la terre les témoins de Dieu. Le principe de Dieu, c'est la séparation d'avec le mal. Et on n'enfreint pas ce principe sans causer un sérieux dommage à la vérité. Le passage de l'Écriture qui nous occupe nous fait voir de quelles désastreuses conséquences fut suivie l'union des fils de Dieu avec les fils des hommes. Au jugement de l'homme, le fruit de cette union paraissait fort beau, car c'est de lui que nous lisons au verset 4 « Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. » Mais Dieu juge différemment, il ne voit pas comme l'homme voit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Telle était la condition de l'homme devant Dieu, elle n'était que méchanceté, méchanceté en tout temps. Et l'union de ce qui est saint avec ce qui est profane n'amènera jamais d'autres résultats. Si la semence sainte ne se conserve pas pure, tout est perdu quant au témoignage sur la terre. Le premier effort de Satan fut de rendre inutile le dessein de Dieu en mettant à mort la semence sainte. Et puis, lorsqu'il n'eut pas réussi, il chercha à la corrompre. Il est de la plus haute importance que nous comprenions bien le but, le caractère et le résultat de cette union entre les fils de Dieu et les fils des hommes. De nos jours, on court grandement le risque de compromettre la vérité pour l'amour de l'union et nous devons nous en garder avec soin. On n'obtient point de véritable union aux dépens de la vérité. Maintenir la vérité à tout prix, telle doit être la devise du chrétien. Si dans cette voie vous pouvez propager l'union, c'est très bien, mais avant tout, maintenez la vérité. Le principe des accommodements dit au contraire « propager l'union à tout prix » et si dans cette voie vous pouvez maintenir la vérité, tant mieux, mais propager l'union. Il n'y a pas de vrai témoignage là où la vérité est compromise. Aussi voyons-nous que dans le monde antédiluvien, l'union impure de ce qui était saint avec ce qui était profane, de ce qui était divin avec ce qui était humain, eut pour unique effet d'amener le mal à son comble. Et alors le jugement de Dieu tomba sur le monde. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Il n'a fallu rien moins que la destruction de tout ce qui avait corrompu la voie de Dieu sur la terre. La fin de toute chair est venue devant moi. Dieu ne parle pas seulement d'une partie, mais de toute chair, car elle était tout entière corrompue aux yeux de Jéhovah, tout entière irrévocablement mauvaise. La chair avait été pesée et trouvée mauvaise. Et alors l'Éternel annonce à Noé en ces termes le moyen de salut qu'il avait préparé pour lui. Fais-toi une arche de bois de gopher. Verset 13-14. Noé est ainsi fait dépositaire des pensées de Dieu à l'égard de la scène qui l'entoure. La parole de l'Éternel avait pour effet de mettre à nu jusqu'au fond toutes les choses sur lesquelles le regard de l'homme peut se reposer avec satisfaction et dont il peut se glorifier. Le cœur de l'homme pouvait s'enfler d'orgueil et palpiter d'émotion quand il parcourait du regard la foule brillante des hommes d'art et des hommes de génie, des vaillants hommes et des hommes de renom. Les sons de la musique l'enchantaient, tandis que l'agriculture pourvoyait abondamment à tous les besoins de sa vie. Tout cela semblait bannir bien loin la pensée d'un jugement prochain. Mais Dieu dit « J'exterminerai ». Et ces solennelles paroles jettent leur ombre lugubre sur toute la scène. Mais peut-être le génie de l'homme inventera-t-il quelque moyen d'échapper? L'homme vaillant ne se délivrera-t-il pas par sa grande force? Hélas, non, il n'y a qu'un moyen d'échapper, et ce moyen est révélé à la foi, non à la vue, ni à la raison, ni à l'imagination. Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit une arche pour la conservation de sa maison, et par cette arche il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Hébreux 11, verset 7. La parole de Dieu répand sa lumière sur toutes les choses qui trompent le cœur de l'homme. Elle enlève le voile doré dont le serpent recouvre un monde passager, vain et trompeur, sur lequel est suspendue l'épée du jugement de Dieu. Mais la foi seule reçoit l'avertissement de Dieu, lorsque les choses qu'il annonce ne se voient pas encore. La nature est gouvernée par ce qu'elle voit, par l'essence. La foi est gouvernée par la seule parole de Dieu, ce trésor inestimable dans un monde de ténèbres. C'est la foi en cette parole qui donne de la fermeté, quelles que soient d'ailleurs les apparences extérieures des choses qui l'entourent. Lorsque Dieu parla à Noé d'un jugement prochain, aucun signe ne l'annonçait. Le jugement ne se voyait pas encore. Mais la parole de Dieu en fit une réalité présente pour le cœur dans lequel cette parole était mêlée avec la foi. La foi n'attend pas de voir pour croire, car la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Tout ce qu'il faut à l'homme de foi, c'est de savoir que Dieu a parlé. Le « Ainsi a dit l'Éternel » suffit pour communiquer à son âme une certitude parfaite. Une seule ligne de l'Écriture suffit pour répondre à tous les raisonnements et à toutes les imaginations de l'esprit humain. Et celui dont les convictions sont fondées sur la parole de Dieu peut résister au flot de l'opinion et des préjugés du monde entier. C'est par la parole de Dieu que le cœur de Noé fut soutenu pendant tout le temps de son long service. Et c'est par cette même parole que des milliers de saints ont été soutenus depuis les jours de Noé jusqu'à maintenant, en face de l'opposition et de la contradiction du monde. On ne saurait donc trop estimer la parole de Dieu. Sans elle, tout est incertitude. Avec elle, tout est paix et lumière. Partout où cette parole vient briller, elle trace à l'homme de Dieu un sentier sûr et béni, tandis que celui dont la voie n'est pas éclairée par elle est réduit à errer au milieu du labyrinthe de la tradition humaine. Comment Noé aurait-il été capable de prêcher la justice pendant 120 ans si la parole de Dieu n'avait pas été le fondement de sa prédication? Comment aurait-il pu résister aux moqueries et au mépris d'un monde impie? Comment aurait-il pu persévérer à proclamer l'approche d'un jugement à venir lorsqu'aucun nuage n'apparaissait à l'horizon du monde? La parole de Dieu était le fondement sur lequel il s'appuyait et l'Esprit de Christ le rendait capable de demeurer dans une sainte fermeté sur ce fondement inébranlable. Et nous, lecteurs chrétiens, qu'avons-nous d'autre pour demeurer fermes dans notre service pour Christ dans les jours mauvais d'à présent? Rien, assurément. La parole de Dieu et le Saint-Esprit par lequel seule cette parole peut être comprise, appliquée et mise en pratique sont tout ce qu'il nous faut pour être parfaitement accomplis pour toute bonne œuvre, quelle qu'elle soit. 2 Timothée 3, verset 16-17. Quel repos pour le cœur! Quelle délivrance de toutes les tromperies du diable et de l'imagination de l'homme! À leur place, nous avons la parole de Dieu, pure, incorruptible et éternelle. Puissions-nous rendre grâce à Dieu pour ce trésor inestimable! L'imagination des pensées du cœur de l'homme n'était que méchanceté en tout temps, mais Noé trouvait son refuge, le parfait repos de son cœur, dans la parole de Dieu. Et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi. Fais-toi une arche de bois de gopher. » Ces paroles nous disent l'état de ruine de l'homme et le salut de Dieu. Dieu avait permis que l'homme poursuivît sa carrière jusqu'au bout afin que ses principes et ses voies parvinssent à maturité. Le levain avait opéré et avait fait lever toute la pâte. Le mal avait atteint son apogée. Toute chair était devenue mauvaise et avait corrompu sa voie, et la corruption était arrivée à ses dernières limites, en sorte qu'il ne restait plus d'autre ressource pour Dieu que de détruire complètement toute chair et, en même temps, de sauver tous ceux qui, d'après ses conseils éternels, se trouvait uni au huitième et seul homme juste existant alors. Ceci fait ressortir d'une manière saisissante la doctrine de la croix. D'un côté, le jugement de Dieu sur la nature et toute sa perversité. D'un autre côté, la révélation de la grâce salutaire dans toute sa plénitude et sa parfaite application à ceux qui sont réellement arrivés au point le plus bas de leur condition morale, telle que Dieu la voit. L'Orient d'en haut nous a visités, Luc 1, verset 78. Et où cela? Précisément là où nous nous trouvions comme pécheurs. Dieu est descendu dans les parties inférieures de la terre. La lumière de l'Orient d'en haut a pénétré jusque dans les profondeurs des ténèbres du pécheur et nous a ainsi révélé notre vrai caractère. La lumière juge tout ce qui n'est pas en accord avec elle, mais tandis qu'elle juge le mal, elle donne aussi la connaissance du salut dans la rémission des péchés. La croix, en révélant le jugement de Dieu sur toute chair, révèle aussi le salut aux pécheurs coupables et perdus. Le péché est parfaitement jugé, le pécheur parfaitement sauvé, Dieu parfaitement révélé et glorifié à la croix. Si le lecteur ouvre la première épître de Pierre, il y trouvera des enseignements précieux sur le même sujet. Au chapitre 3, versets 18 à 22, nous lisons « Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi étant allé, il a prêché aux esprits qui sont en prison, qui ont été autrefois désobéissants quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre, savoir 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Or, cet antitype nous sauve aussi maintenant, c'est-à-dire le baptême, non le dépouillement de la saleté de la chair, mais la demande à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel, ange, autorité et puissance lui étant soumis. Ce passage est de la plus haute importance et jette une grande lumière sur la doctrine de l'arche et sa liaison avec la mort de Christ. Comme au déluge, ainsi dans la mort de Christ, toutes les vagues et tous les flots du jugement de Dieu passèrent sur ce qui, en soi, était sans péché. La création fut ensevelie sous les flots de la juste colère de l'Éternel et l'Esprit de Christ, au psaume 42, verset 7, s'écrit « Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. » Toutes les vagues et les flots de la colère divine ont passé sur la personne pure et sans tache du Seigneur Jésus alors qu'il était pendu au bois. Et par conséquent, aucune de ces vagues n'aura à passer sur celui qui croit. Au calvaire, nous voyons en toute vérité les fontaines du grand abîme rompues et les écluses des cieux ouvertes. Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes. Psaume 42, verset 7. Christ but la coupe et endura la colère parfaitement. Il prit judiciairement sur lui tout le poids de la responsabilité de son peuple et satisfit glorieusement à toute cette responsabilité. L'âme du fidèle trouve ici une paix assurée, car si le Seigneur Jésus a affronté tout ce qui pouvait être contre nous, il a renversé tous les obstacles, il a ôté le péché, il a vidé la coupe de la colère du jugement pour nous, il a dissipé tous les nuages, ne jouirons-nous pas d'une paix assurée? La paix est notre inaliénable part. C'est à nous qu'appartiennent le profond et indicible bonheur et la sainte assurance que l'amour rédempteur peut donner avec justice en vertu de l'œuvre parfaitement accomplie de Christ.